Je suis en compagnie de Monsieur Saraméa, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler poésie.
Oui.
Et de plein de balades aussi.
Quelques balades et puis un peu d'histoire.
Quel genre de poésie faites-vous?
Alors, j'utilise différentes prosodies. Tout dépend du sujet et tout dépend du message que je veux faire passer. Puis je me pose un peu la question, est-ce que c'est une poésie à dire? Est-ce que c'est une poésie à lire? Ce n'est pas tout à fait le même principe. Voilà.
Quel procédé utilisez-vous?
Alors, si le message est assez réfléchi, un petit peu profond, j'aime bien le maillet. J'en ai lu un sur... L'été vibre de vie au Mont du Dauphiné. Voilà, ce sont quatre quatrains, donc c'est un petit peu long, avec un vers message qui se répète quatre fois, et on brode autour d'une idée avec des arguments, quelques envolées, voilà. Si c'est une description d'un personnage, d'un animal, d'un arbre, j'utilise volontiers l'acrostiche. Alors, l'acrostiche, c'est lorsqu'on lit la première lettre de chaque vers compose le mot. Voilà. Lorsqu'on va parler de la role du pain sans broc, je lirai mon acrostiche sur la role. C'est purement descriptif. Ça oblige à une certaine rigueur, même à sélectionner un peu de vocabulaire, puisque le premier vers, la première lettre va composer le mot. Par contre, si c'est une simple observation assez courte, une impression rapide, j'utilise le haïku. Alors c'est très à la mode depuis 10-15 ans. C'est une prosodie d'origine japonaise, mais qui est maintenant très utilisée en Europe dans toutes les langues européennes. Il y a des concours de haïku, il y a une revue en France pour le haïku. Donc, c'est très original, c'est 17 syllabes en 3 lignes de 5, 7 et 5 syllabes. On n'est pas habitué dans notre culture parce que c'est un rythme impair. Il n'y a pas de rime. Normalement, il n'y a pas beaucoup de sentiments, mais enfin, on peut mettre une impression. Ce n'est pas du tout le poème d'amour. C'est quelque chose de rapide. C'est, encore une fois, quelque chose d'impressionniste. Alors, par exemple, sur les arbres, quand on est à très haute altitude, arbre rabougri s'accrochant dans les rochers à 2004. Donc ce n'est pas profond, c'est une petite observation, mais après, l'imagination de celui ou celle qui écoute peut s'envoler sur des souvenirs, sur des images récentes ou sur autre chose. Parfum capiteux, aux fleurs ailées courant juin, tilleul de montagne. Quand on se promène un peu après le parc de la Chape, là, à gauche de la Durance, il y a à la fois des marronniers et des tilleuls. Et c'est très joli, c'est caractéristique. Vers la mi-juin, l'air est encombré, dans le soleil, ça se voit très bien, par le duvet, c'est-à-dire les graines, des peupliers. Regardez passer le duvet des peupliers, la brise est visible. Juste une observation. On peut s'amuser, mais ce n'est pas obligatoire, à faire des allitérations, par exemple sur la lettre F. Le frêne furtif fléchit un fuseau fringant sous le firmament. Lorsqu'on se promène, qu'il fait chaud en milieu de journée dans la forêt de pins sylvestres, que ce soit en montant vers la Croix de Toulouse ou dans la vallée de la Clarée, senteur longue et chaude autour des pins sylvestres, odeur balsamique. Et puis, justement, quelque chose d'assez rare, il n'y en a que 900 hectares dans toutes les Alpes françaises, le pin sans broc, qui est très particulier. En bois parfumé, c'est la role des cembrés meubles et jouets, puisque on le travaille beaucoup, en particulier dans le Kera, mais pas seulement. Voilà, donc de temps en temps, j'émaillerai une petite description avec un ou deux haïkus, parce que c'est une façon assez elliptique de...
Justement, nous allons parler de ces arbres emblématiques. L'arbre est-il rare, la rolle ou le pin sombreau ?
Alors, oui, c'est un arbre peu fréquent dans les Alpes, encore une fois, 900 hectares au total, tout au moins dans notre département. C'est la rolle, c'est un pin, mais il est au-dessus de tous les autres, au-dessus du mélèze, c'est-à-dire qu'il pousse entre, disons, 1800 et 2400, 2500 mètres. C'est un arbre à croissance extrêmement lente. Imaginons qu'à 30 ans, il ne fait qu'1,50 m.
Ah oui.
Et que dans la forêt des Ailles, puisque c'est peut-être la plus belle sambrée du Briançonnais, de loin, dans la forêt des Ailles, la plupart ont plus de 300 ans. Et il y en a même qui, disons, ont commencé à pousser à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est un arbre historique, si on peut dire, qui a des branches très bas sur le tronc, des petites fleurs un peu roses qu'on ne remarque pas beaucoup, et tous les 3-4 ans, en bout de tige, une pigne avec des pignons très durs, très énergétiques. Alors, une caractéristique, si on se demande, voyons, ça a l'air d'être un pin, c'est un arôle ou pas un arôle ? Eh bien, c'est très simple, il faut regarder les aiguilles. C'est le seul conifère pour lequel les aiguilles sont groupées par 5. Donc, vous prenez un petit toupet d'aiguilles, vous ne l'arrachez pas, vous comptez les aiguilles, s'il y en a 5, c'est l'arôle. Alors, il y en a quelques-uns, très jolis d'ailleurs, au jardin alpin du Lautaret. Mais c'est après le lac de l'Orcérette, en montant davantage, ce sont vraiment les derniers arbres que l'on rencontre.
Et alors, ça a une odeur différente aussi ou...
Oui, alors, bon, comme il ne fait jamais très chaud à ces altitudes, ça n'embaume pas. Mais c'est surtout le bois. Le bois a une odeur très spécifique, magnifique d'ailleurs. C'est un bois très beau, très ambré, qui se travaille, qui est très recherché pour des objets de cuisine, pour des jouets et différentes utilisations. Par exemple, si on veut que l'entourage d'un cadran solaire que l'on va emporter dure des décennies sans commencer à être soit attaqué par des insectes, soit commencer à pourrir, on fait un entourage en arôle. Et il n'y a aucun besoin de traitement ensuite, et pendant des décennies, le bois va rester imputrescible. C'est vraiment exceptionnel. Et puis enfin, ces arbres de haute altitude. Donc, allez vous promener. Attention, la route n'est pas bonne, hein, n'est que partiellement goudronnée. Mais après le village des Ailles, vous tournez à droite, vous garez près du lac de l'Orcérette, et puis vous prenez une piste et vous arrivez dans la Sambrée. Et alors, comme ça laisse bien passer le soleil, ce n'est pas une forêt dense, il y a beaucoup de flore, il y a beaucoup de fleurs. En ce moment, tout au moins fin juin, début juillet, il y a encore beaucoup de rhododendrons, les trolls, ces énormes boutons d'or là, qui sont splendides, les lys, les tapis de myrtille, bien sûr, les centaurées rouges, les centaurées bleues, c'est un peu comme des gros bleuets, et c'est magnifique.
Donc ils forment un milieu de vie ?
Oui. La Sambrée est un milieu très particulier, avec des animaux emblématiques, le tétralyre, les écureuils, quelques martres au sol difficiles à voir, les campagnols, la perdrix bartavelle qui, elle, peut en couple nicher jusqu'à 2500 mètres, qui est blanche et noire. Et puis alors un oiseau essentiel à la Sambrée, c'est le casse-noix, qui est un oiseau de 30 cm d'envergure, hein, lorsqu'il étale les ailes, voisin du jet, disons, et qui est équipé, grâce à un bec spécifique, pour disséquer les petites pignes du pin sambro, pour emmagasiner, il a une poche sous le cou, pour emmagasiner les pignons, ou quelquefois il emporte la pigne hein, pour se débrouiller plus loin, et pour stocker pour l'hiver, sous la mousse, dans des endroits qu'il connaît, il est malin, il les récupère au 4-5e après. Hein. Mais les pignons qu'il oublie donneront naissance à de futurs pins sambro. Ce casse-noix moucheté, comme on l'appelle,
est important,
essentiel pour le futur, pour la survie de cette sambrée. Pinocembro en italien, pour notre Piémont voisin. Autrement, il y a bien d'autres oiseaux, hein, les becs croisés, les piques et pêches, les mésanges, les roitelets, les aigles qui peuvent tournoyer au-dessus, c'est l'altitude. Hein. Les mésanges, bien sûr, les citelles, les petites chouettes. Bon, il ne faut pas trop faire de bruit, et puis on peut observer la journée, même si pas mal de ces oiseaux vivent la nuit. On peut observer beaucoup de choses. C'est un milieu spécifique. Et puis alors, l'herbe peut pousser, c'est le kérélin, qui est une fétue que les animaux peuvent brouter en début d'année, quand elle est encore tendre. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. En dehors de la forêt des Ailles, il y a une jolie sambrée quand on remonte au-dessus de Méribel. Donc on est en Savoie, oui. Au-dessus de Méribel-Motaret, vous avez là aussi une très belle sambrée. Autrement, il y en a vers Seillac, hein, un peu plus au sud, près de Guillestre. Il y en a vers les Ors, donc à l'est d'Embrun. Mais vraiment, ce n'est pas très fréquent, donc on a quelque chose d'original et de spécifique à quelques minutes de Briançon, et ça vaut le coup en connaissant, en achetant un petit volume. Il y a un petit volume publié par les éditions du Fournel à l'Argentière sur le bois des Ailles qui est très très bien fait, qui fourmille d'explications, et ça vaut le coup de s'en pénétrer et d'en faire son compagnon de promenade.
Ce pin est-il utile à l'économie ?
Alors, il faut l'exploiter avec parcimonie, parce qu'encore une fois, ce sont des arbres qui sont faits pour vivre plusieurs siècles, mais avec l'autorisation de l'ONF et en s'entourant de précautions, oui, bien sûr, c'est un arbre exceptionnel, un bois imputrescible, encore une fois, avec une odeur durable, qui est un mélange de résine et d'autres parfums. Ça permet, dans le Kera, ça a été très utilisé, y compris pour des panneaux décorés. C'est une utilisation très ancienne, mais c'est un bois plutôt rare. C'est un bois plutôt rare. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup. On va se retrouver après RFI, il est 8h58. Vous écoutez Fréquence Mistral et on se retrouve à 9h15. Après RFI, à tout à l'heure.